Comment c'est exprès ? Vous écoutez le micro. Ah, pardon, merci beaucoup. Merci bien. Donc, Paolo Ferreira, COSETA, donc, je suis administrateur. J'ai en charge la commission santé du COSETA. Je suis partie du CCE aussi. Et j'assiste aussi au CCR. Donc, plein de sujets en commun avec ce que vous venez d'exposer, monsieur Lacoste, et je vous remercie. Juste une petite remarque liminaire. Il y a quand même une façon de présenter les sujets qui vont plutôt dans le sens de du message que vous voulez porter, plutôt que la mesure de la réalité des impacts et des vraies réflexions qu'il faut porter autour de ce projet-là. Alors, très simplement, vous avez commencé votre présentation, et c'est la remarque que je voulais faire tout à l'heure, sur les enjeux. Les enjeux, je ne sais pas si ces enjeux ont été réellement évalués, si les impacts économiques, les impacts environnementaux, les impacts développement d'urbanisme, etc., etc., ont été réellement menés. J'en suis vraiment pas sûr, je ne sais même pas s'ils ont été actualisés à l'aune de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, et à l'aune aussi du développement en fait, du territoire sur lequel on est. Donc ça pose des tas de questions là-dessus, et je remercie sincèrement M. Lefebvre d'avoir intégré dans la dimension économique le coût de la santé et l'impact que ça a effectivement en vie économique et l'impact aussi social que vous avez l'air d'oublier aussi puisque vous parlez d'environnement maintenant. L'environnement, c'est évidemment facile de le prendre sous l'aune de l'écologie, mais il y a l'impact aussi de la santé, il y a l'impact aussi social. J'en veux pour preuve, et ça fait plusieurs fois que vous tenez ce discours-là, et donc et plusieurs fois je tiens du coup ce discours pour le compte du COSETA et de ses adhérents et des citoyens d'ailleurs concernés, des 100 000 habitants concernés par cet aéroport. Lorsqu'on met en avant le fait qu'on protège la population parce qu'on la met en capacité de partir de leur territoire alors qu'ils sont ancrés depuis de longues dates là-dessus, ce n'est pas un argument. Lorsqu'on dit en plus qu'ils ont la capacité d'être confinés puisqu'ils ont la possibilité d'isoler, ce n'est pas non plus un argument fiable. Et ça, du point de vue de la santé, sachez juste que l'OMS a intégré les problématiques de la qualité de l'air domestique comme étant un problème de santé extrêmement important. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt et quelle est la pertinence de pointer ce sujet-là. Deuxièmement, concernant les financements, puisque je fais partie de la CCR, la dernière CCR qui s'est tenue le 12 mai 2021 concluait sur le fait que le budget dont elle disposait, donc à affecter, est arrivé à terme, c'est-à-dire en milieu d'année, et qu'elle n'est pas en capacité de provisionner les dossiers à venir qui s'élevaient autour de plus de 3 millions d'euros. Donc, vous faites référence, toujours pareil, à des dotations exceptionnelles. Je ne sais pas si elles ont été, peut-être qu'elles ont été, hein, je l'ai dit, peut-être que là, pour le coup, vous allez nous annoncer quelque chose, mais peut-être qu'on va pouvoir les constater, puisque jusqu'à présent, finalement, non seulement les riverains ne peuvent pas œuvrer pour l'insonorisation, ou ne peuvent pas quitter leur logement, si tant est qu'ils puissent avoir les conditions pour le faire, mais en plus, on n'a pas les moyens de les aider, puisqu'il n'y a pas de financement. Donc ça, c'est le premier point. Donc, quelle est la traduction concrète finalement, de ces dotations exceptionnelles dont on parle. C'est mon sujet. Deuxièmement, du point de vue de la santé, j'aimerais aussi, je pense qu'on a tous conscience que la santé est une conclusion d'une chaîne globale, environnementale, bien entendu. C'est à la fois la qualité de l'air, la qualité des sols et de l'eau. Donc, ce n'est pas un hasard si j'évoque ça aussi, puisque dans une étude environnementale, je ne vois rien sur ce sujet-là. Ça ne manque pas de sel, puisque l'aéroport, et vous l'avez repris d'ailleurs dans le cahier des charges d'aménagement en préparation de la mise en place du LS, vous avez intégré le fait qu'il y avait une contrainte qui était le fait que l'aéroport était sur une nappe phréatique. Mais toute la zone, d'ailleurs, a un impact aussi sur une nappe phréatique. Donc, cette dimension-là n'apparaît nulle part. L'exposition au bruit, bien évidemment, on en parle. J'insiste lourdement, c'est exposition au bruit et qualité de l'air sont du fait de l'aéroport possible, des avions. Là, pour le coup, je ne pense pas que ce soit du ressort de la DGAC, puisque là, pour le coup, l'idée, c'est bien de rentabiliser les investissements qui vont être faits. Et du coup, ce n'est pas la DGAC, mais c'est le concessionnaire qui devoir gérer ce genre de choses, je suppose. Ou alors, je me trompe. Et c'est lié aussi à l'ensemble des dessertes. Et pour l'instant, on n'a pas une vision globale de cet impact-là, puisqu'on n'a pas une vision claire des dessertes qu'on va peut-être réaliser. Du point de vue du public, hein, j'entends. Je pense que les élus sont plus au courant, mais cette mesure-là, on ne l'a pas non plus. Et donc, je ne comprends pas, du coup, que l'on engage. Alors, et dernier point, vous venez de le dire, et c'était assez amusant, vous parliez des puffs. Oui, vous savez, alors, les puffs, bon, bah, finalement, il n'y a pas d'études sérieuses qui disent qu'il y a un réel impact sur la santé. Bah, il y en a certaines, quand même, dont une portée par l'OMS, une aussi portée par certains de vos services aussi. Et ça, il y a énormément de littérature sur le sujet. Mais quand, en plus, vous dites, ah, vous savez, je suis déjà assez, je ne suis pas médecin, donc... Mais je prends quand même le risque d'aller jusqu'au bout. C'est quand même incroyable que dans l'appel d'offres, vous allez engager une concession sur 40 ans, sachant qu'il y a un certain nombre de prérequis qui n'ont pas été mesurés, qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, pour le coup, vous engagez l'avenir tout en n'ayant pas réalisé les analyses jusqu'au bout. Et ça, ça me perturbe aussi, voyez. Donc, c'est compliqué de porter crédit, finalement, à cette démarche. Et enfin, dernier point, je m'arrêterai là. On parlait de transparence. Encore une fois, on a beau demander les éléments qui vous permettent de réaliser l'extrapolation, on ne les a jamais. J'en veux typiquement le fait qu'on a demandé à accéder aux mesures brutes des résultats des stations de bruit et mesures qualité de l'air, on ne les a jamais obtenus. On a uniquement des résultats qui sont lissés, qui sont consolidés via le LDEN. Et or, on sait que ce critère-là n'est pas suffisant, il n'est pas du tout révélateur de l'exposition au bruit que peuvent vivre les citoyens. Donc pour moi, il y a aussi une problématique de méthode qui a pour objectif, encore une fois, de cacher la réalité de l'exposition au bruit et de lisser les phénomènes, histoire de faire passer un faux message. Voilà, ça a été long, je suis désolé. Mais...
Je vais juste compléter aussi concernant les deux fameux décrets pour essayer de... Comment dire, pour que le gouvernement se dédouane de la trahison qu'il a fait auprès de l'État, n'abordez pas le sujet qui sont totalement discriminatoires, étant donné qu'elles concernent que des habitations achetées entre novembre 2010 et janvier 2018 de mémoire, et l'aide au déménagement va être valable 3 ans à partir de la signature du concessionnaire, sauf si les décrets ont changé entre-temps. Mais il faut bien comprendre que ça veut dire que dans une même rue, vous avez le voisin. Donc l'État reconnaît d'un côté qu'il y a nuisance et donc il va dédommager les habitants. Et le voisin d'à côté, qui n'était pas dans la bonne période, lui, il a le droit de rester dans le couloir. Donc là, il y a une discrimination totale. L'aide au déménagement, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas dans les 3 années à venir que le problème va se poser. C'est dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Que le problème va se poser quand le trafic aérien sera à pleine balle. C'est là que va se poser les problèmes.
Gérard Lefebvre de l'Axan. Oui, je disais, dans l'étude de particules fines que vous avez indiquée, vous indiquez trois sites de mesure. Deux dont on comprend bien qu'ils sont intéressants, qui est le site de la Rangenière, qui est sur la trajectoire d'approche du nord, et Bourg-de-Saint-Aignan sur la trajectoire d'approche du sud. Vous en indiquez un troisième, qui est la Chauvinière à Nantes. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas sous les trajectoires d'avion, a priori.
Sur les les lignes aériennes qui permettent une correspondance en Île-de-France. Alors effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, lorsqu'il y a de point à point une alternative ferroviaire de 2h30, le service aérien n'est plus autorisé. Non, c'est interdit. En revanche, lorsqu'on est sur des logiques d'alimentation d'un hub, typiquement Charles de Gaulle, à ce moment-là, et qu'on a un service aérien qui permet d'alimenter du coup un trafic de correspondance, à ce moment-là, c'est permis. Cependant, pour Orly, en fait, on a essentiellement des vols directs. En fait, c'est pas une plateforme de correspondance. En tout cas, tel qu'aujourd'hui, c'est organisé avec les compagnies aériennes, le trafic vraiment de correspondance, la fonction de hub, elle se réalise quasiment exclusivement à Charles de Gaulle, non pas à Orly. Voilà. Après, je n'ai plus complètement tout en tête, votre question, mais on pourra, si vous voulez, en discuter par la suite. Alors, le monsieur de l'accent, s'il y avait une question sur la station de mesure qui est finalement des particules ultra-fines qui se situent, grosso modo, dans Nantes, pour dire les choses simplement. Ce qu'on a souhaité, c'était mesurer les particules ultra-fines autour de l'aéroport. Donc ça donne une idée de ce qui se passe autour de l'aéroport. Et puis, on souhaite avoir un point de comparaison avec ce qui se passe dans une zone réputée
dont on peut considérer a priori qu'elle est hors influence de l'aéroport. Et donc c'est ce troisième point de mesure qui, lui, en revanche, est sous influence du trafic routier. Et donc ça permet de voir, enfin c'est ce qu'on espère une fois qu'on aura les résultats, de voir si on a des typologies de particules qui sont différentes autour de l'aéroport et dans une zone où il y a du trafic routier dont on sait... pour sa part, le qualifier, puisque le trafic, enfin, les particules émises par le trafic routier, on connaît un peu plus voilà, la composition et la typologie, la granulométrie de ce qui est émis par le trafic routier. Alors ensuite, pour le COSETA, il y avait des interrogations, et puis je crois que ça reprend une des questions qui avait été formulée tout à l'heure sur le social. Effectivement, quand on parle de développement durable, il ne faut pas oublier le social. Et justement, nous avons, je ne l'ai pas indiqué dans la présentation de tout à l'heure, je pense que j'aurais dû le faire et je pense que ça méritera peut-être qu'on complète notre support d'information sur ce plan-là. Nous avons prévu dans l'appel d'offres pour la future concession, c'est une obligation en termes d'emploi pour le futur concessionnaire. Donc le futur concessionnaire va réaliser des travaux. Et d'une part, et d'autre part, ensuite, il emploiera des personnels pour exploiter l'aéroport. Donc, ce que nous avons prévu, c'est des obligations en termes de recours aux PME locales pour la phase de travaux et aussi un certain nombre d'obligations pour que le futur concessionnaire garantisse une part d'emploi social, soit de personnes en situation de réinsertion, soit de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc là, honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête que nous avons pris, mais nous avons travaillé ça d'ailleurs en lien avec les services de Nantes Métropole pour que ce que nous imposons aux futurs concessionnaires soit au niveau, et sinon plus, des pratiques actuellement observées. Alors après, pardon. Je ne peux pas vous faire le...
Attendez. Respectez, s'il vous plaît, la réponse qui vous est faite. Merci. Non,
Oui, je suis d'accord avec vous, vous avez parfaitement raison, monsieur. En fait, pour cela, l'État, depuis, je ne sais plus, une quarantaine d'années, en fait, a prévu un document qui s'appelle le plan d'exposition au bruit. Et donc, le plan d'exposition au bruit, sa philosophie, c'est justement de réguler l'aménagement du territoire autour des zones de bruit. Parce que, justement, quand il y a du bruit fort, les gens ne... Enfin, c'est pas un lieu dans lequel il est naturel ou il est bon pour la santé, bon pour les gens de s'installer et d'y vivre. Donc, alors, on a des zones du coup dont une zone de bruit fort où le principe général c'est l'interdiction de construire des zones d'habitation et de l'habitat collectif. On a une zone de bruit modéré dans lequel le principe là aussi général c'est l'interdiction de construire, sauf lorsqu'on a une propriété et qu'on est déjà propriétaire d'un terrain, des habitats, des constructions individuelles, une maison, pour dire les choses simplement, parce qu'on ne veut pas spolier des propriétaires qui ne sont pas de grands opérateurs qui vont faire des immeubles collectifs. Et puis ensuite, il y a une zone dite de bruit faible, où là, le bruit est tout à fait... ça peut être une gêne, mais il est tout à fait supportable, on peut y vivre sans grande difficulté. Et là, ce que prévoit le plan d'exposition au bruit, c'est des mesures d'insonorisation. C'est-à-dire que toute construction nouvelle, quelle qu'elle soit, le principe général, c'est qu'on peut y construire, mais toute construction doit être insonorisée. Donc ça, c'est le dispositif général qui prévaut partout en France et qui donc participe de cet enjeu de protéger les gens contre le bruit. Et l'État n'a pas attendu notre incendie pour mettre en place cette politique. Au-delà de ça, nous avons mis des mesures exceptionnelles parce qu'on a une situation qui est spécifique à Nantes Atlantique. On l'a tous en tête, on a des mesures exceptionnelles. Le droit de délaissement, ça c'est nouveau. Ça n'a jamais été créé, encore une fois, je le répète, nulle part ailleurs en France. et l'aide à la revente. Et enfin, pour compléter cette politique globale de lutte contre le bruit et de préservation de la qualité de vie de nos concitoyens, l'État a souhaité, dans la loi d'orientation des mobilités, ajouter une disposition nouvelle qui ne figurait pas auparavant, qui est l'obligation d'informer les acquéreurs et les locataires au moment où il y a une cession ou une location de biens immobiliers du niveau de bruit auquel ils sont exposés. Donc avec l'ensemble de ces mesures, si vous voulez, on a un panel qui permet d'une part de traiter le sujet sur le long terme et d'autre part, que les personnes soient, on l'espère en tout cas, valablement informées.
Excusez-moi, on ne vous entend pas en plus.
Merci. Donc, en synthèse du tout, donc l'État a mis en place un PBE qui a été rejeté par la commission CCE.
C'est faux, monsieur. Vous cherchez à nous embarquer sur des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour en plus.
Non, mais je vous ai dit, on fait référence à ça. Deuxièmement, on parle de financement, et c'était la question de la réponse. Je ne vais pas, enfin, la question qui est directe, effectivement, on parle de ces aides exceptionnelles qui sont plus utiles. Quand est-ce qu'elles seront versées? Est-ce que la DGAC est mise là-dessus? Monsieur le préfet, peut-être, la question est bien une autre.
Je vous réponds, je souhaite apporter les premiers chèques aux riverains concernés avant la fin de l'année. On va tout faire pour arriver, même si le calendrier est tendu, on va tout faire pour arriver dans ce calendrier-là, parce que c'est important qu'on montre effectivement que les mesures prises, elles ont des traductions concrètes rapidement sur les communes concernées.
Et troisièmement, effectivement, ces aides-là servent en fait à la caractéristique, la discussion de ces temps de l'exposition au bruit. Et donc, je suis référence à cette discussion qu'on vient de voir, sachant que le fondement même sur le réglementaire, la réalité n'est absolument pas le reflet de l'exposition du bruit ressenti par les habitants. J'en ai fait un
principe. Et la discrimination des délais.
Ça, monsieur, c'est le juge qui aura à en juger le moment venu, puisqu'on nous annonce des contentieux. Donc, laissons le juge faire son travail. Merci. Bien, je crois que nous arrivons au terme de notre réunion. On a un peu débordé l'horaire, mais ce n'est pas grave, puisque l'important, c'était d'apporter un maximum d'informations. Alors, toute transparence, comme cela avait été indiqué. Madame Agarante, est-ce que vous souhaitez intervenir à ce stade?
Écoutez, si vous me donnez la parole, je vais me permettre de la prendre. Je vous remercie, M. le Préfet. Moi, ce que je note, vous expliquez, on est en pause concertation préalable. Nous, Garante, nous constatons la décision qui a été prise, qui est par l'État, donc par la DGAC 2019, qui est posée sur la table, qui définit le projet. On est maintenant dans la phase du débat autour des caractéristiques du projet, mais je dirais avec deux aspects. L'aspect, en effet, caractéristique du projet en tant qu'objet qui est porté par la DGAC, mais aussi, finalement, aménagement du territoire autour de ce projet, très clairement, qui est un projet éminemment territorial. Moi, je vois bien qu'aujourd'hui, les questions ont porté à la fois sur l'objet technique, socio-technique, qui est le réaménagement d'aéroport, mais aussi sur ces sujets d'aménagement du territoire qui sont aussi embarqués par la décision de fin 2019, qui est extrêmement complète et riche sur ce sujet. En tant que garante, je ne peux que vous encourager tous à multiplier les temps d'échange et d'explication pour partager les différents aspects du projet, pour les confronter et pour arriver à l'enquête publique en ayant éclairci, en ayant débattu un maximum de ces sujets-là. Nous, on ne se positionne pas sur les réponses à apporter. On note qu'il y a encore un besoin important d'échange, de présentation, d'explication de part et d'autre, pas simplement la DGAC et la préfecture en descendant vers vous, mais aussi de vous, partie prenante, pour exposer vos propres positions, vos propres inquiétudes, vos propres positions. Et franchement, pour moi, on est en plein dans ces exigences de la concertation qui est la confrontation, l'échange, le débat autour de propositions, autour de sujets précis. Moi, je ne peux que vous encourager à multiplier ces temps qui, si j'ai bien compris, vont aller au-delà des réunions publiques qui sont prévues, mais qui vont passer aussi par des réunions d'échange ad hoc avec des municipalités. J'espère qu'ils vont aussi inclure les associations et les collectifs. Voilà, M. le Préfet, merci de m'avoir donné la parole. Voilà ce que je voulais dire en conclusion pour ma part.
Merci beaucoup. Non, mais effectivement, Je le répète, je l'avais dit en introduction, notre vœu, c'est de pousser le plus loin possible cette concertation et ces échanges, avec à chaque fois, ça va de soi, mais je le répète quand même, le respect de chacun des intervenants, des protagonistes. Je dis ça parce qu'il y a quand même eu parfois des écrits ou des propos qui étaient pour le moins limites et qui, dans certains cas, auraient même pu intéresser le juge pénal. Pour ça, je me permets quand même de signaler, je souhaite que le respect reste le maître mot dans l'ensemble de ces débats sur un sujet complexe et sur un sujet riche qui concerne beaucoup de nos concitoyens. Donc nous leur devons bien ça, ce travail de transparence et de dialogue et de concertation. Très rapidement, Monsieur Lacorte, deux, trois mots de conclusion pour rappeler que les 31 engagements qui avaient été pris, qui avaient été formulés par le ministre lors de sa venue fin 2019 ont tous connu un début de mise en œuvre, voire même pour certains d'entre eux sont largement assurés, même si on ne les a pas repris un par un. La présentation très complète que vous avez faite a permis de montrer que la totalité des 31 ont déjà connu un début de mise en œuvre, en rappelant que s'agissant du couvre-feu, qui est un sujet évidemment attendu par les riverains, comme je l'ai indiqué en introduction, la mise en place est maintenant imminente, puisque l'on parle de mars 2022.
Merci, Monsieur le Préfet. Vous avez ici, mesdames et messieurs, une synthèse, on vient de passer dessus. Alors, allons sur la frise chronologique du projet. Bon, restons sur les 31 engagements. Donc, vous avez là, nous avons point par point un bilan des 31 mesures qui ont été prises par l'État, si on peut l'avoir à l'écran. Voilà, merci. Donc, presque toutes les mesures sont réalisées ou sur le point d'être réalisées. En fait, ce qu'on vous a indiqué en orangé, c'est le couvre-feu, où effectivement, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, il y a un léger décalage, mais il devrait entrer en vigueur au printemps prochain. En revanche, s'agissant des approches par le nord, on a un décalage un peu plus conséquent, puisque nous prévoyons l'entrée en vigueur de ces nouvelles approches au fin du premier semestre 2023. Voilà. Donc après, pour le reste, on a des mesures qui soit sont déjà réalisées, soit avancent selon le calendrier que nous avions normalement prévu. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a un certain travail qui a été fait, qui est suivi des faits. Maintenant, on peut passer à la diapositive suivante, si vous voulez bien. Vous avez... Alors, ça, le temps que ça charge. Bon, en tous les cas, je vais vous indiquer le message que je voulais vous faire passer. C'est vraiment le calendrier général du projet que vous avez là sous les yeux. Le message le plus important, c'est que le calendrier de l'appel d'offres est globalement se déroule comme nous l'avions globalement prévu, avec l'entrée en vigueur du contrat de la future concession qui est prévu à l'été 2022. Ce qui permettra, donc là je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure, je ne sais plus par Guillaume Dalmar, et ce qui permettra d'avoir l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique autour 2024-2025. Alors là-dessus, moi je ne peux pas m'engager à une date vraiment précise, c'est un point qui sera un des éléments de proposition des candidats à l'appel d'offres. Donc, ce sera y compris sur les critères de calendrier que le futur concessionnaire sera choisi. Donc, aujourd'hui, la date de 2024-2025, elle est vraiment indicative. Après, le calendrier d'entrée en vigueur du contrat, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui il soit modifié. On est sur une entrée en vigueur du contrat à l'été 2022. Voilà, peut-être deux derniers mots très rapidement, si on peut passer sur les slides. L'OTANA. L'OTANA, vous l'avez tous en tête, ça a été présenté l'an dernier, c'est l'observatoire de l'aéroport. Vous trouvez là-dessus toutes les informations sur l'aéroport, les mesures du bruit, les données sources, toute la matière est là. Il est en cours d'actualisation par les services de la préfecture et donc une version nouvelle devrait être mise en ligne dans les jours prochains. Et enfin, dernière slide, si vous voulez bien. Comment s'informer sur le projet, comment poser des questions en maître d'ouvrage, comment faire des propositions, c'est un point important, les garants l'ont rappelé, pour comprendre le projet et nous poser une question à nous déjà, c'est vous pouvez vous adresser à nous via le site internet, vous avez un formulaire qui permet de déposer des questions. Vous avez aussi, bon, je l'ai dit, le site internet de l'Observatoire. Vous pouvez suivre l'actualité de notre projet pour cela. Nous avons 1400 abonnés à une newsletter. Et on l'envoie aux abonnés à chaque fois qu'il y a des temps d'avancement du projet. Donc vous pouvez vous inscrire à cette newsletter via là aussi le site internet préaménagement-nantes-atlantique.fr. Et enfin, pour bénéficier des aides aux riverains, vous pouvez vous adresser au JPFCNA, qui est géré par la préfecture, et vous avez ici le rappel de l'adresse électronique. Je crois que c'est tout pour ce qui me concernait. Merci beaucoup à tous pour votre attention.